Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, ce samedi dans À voix haute, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir un livre de Sylvie Germain. Il s'agit de son premier roman qui a été salué par la critique et couronné par 6 prix littéraires, paru en 1985 chez Gallimard, Le Livre des Nuits, et bien sûr toujours disponible en poche aujourd'hui. La nuit qui, par le cri de sa mère un soir de septembre, s'empara de son enfance, s'engouffrant dans son cœur avec un goût de cendre et de sel et de sang, ne le quitta jamais plus, traversant sa vie d'âge en âge et déclinant son nom au rebours de l'histoire. Mais cette nuit qui se saisit de lui, rouant pour toujours sa mémoire de frayeur et d'attente, et ce cri qui entra dans sa chair pour y prendre racine et y porter combat, venait d'infiniment plus loin déjà. Nuit hauturière de ses ancêtres, où tous les siens s'étaient levés, génération après génération, s'étaient perdus, avaient vécu, avaient aimé, avaient lutté, s'étaient blessés, s'étaient couchés, avaient crié et s'étaient tus. Car ce cri lui aussi montait de plus loin que la folie de sa mère. Il s'en venait du fond du temps, écho toujours ressurgissant, toujours en route et en éclat d'un cri multiple, inassignable. Cri et nuit l'avaient arraché à l'enfance, détourné de sa filiation, frappé de solitude. Mais par là même, rendu irrémissiblement solidaire de tous les siens. Bouches de nuit et de cris confondus, blessures ouvertes en travers des visages sous un violent sursaut d'oubli, faisant soudain mémoire d'une autre nuit, d'un autre cri, plus ancien même que le monde. Nuit hors temps qui présida au surgissement du monde, et cri d'inouï silence qui ouvrit l'histoire du monde comme un grand livre de chair feuilleté par le vent et le feu. Charles-Victor Péniel, dit nuit d'ambre, vouée à lutter au minuit de la nuit. Première nuit, nuit de l'eau. En ce temps-là, les Péniel étaient encore gens de l'eau douce. Ils vivaient au fil presque immobile des canaux, à l'horizontale d'un monde arasé par la griseur du ciel et recru de silence. Ils ne connaissaient de la terre que ses berges margées de chemins de halage, bordés d'aulnes, de saules, de bouleaux et de peupliers blancs. La terre alentour d'eux s'ouvrait comme une paume formidablement plate, tendue contre le ciel dans un geste d'attente d'une infinie patience. Et de même étaient tendus leurs cœurs, sombres et pleins d'endurance. La terre leur était éternel horizon, pays toujours glissant au ras de leurs regards, toujours fuyant au ras du ciel, toujours frôlant leur cœur sans jamais s'en saisir. La terre était mouvance de champs ouverts à l'infini, de forêts, de marais et de plaines rouies dans l'élétance des brumes et des pluies, paysages en dérive étrangement lointains et familiers, où les rivières faufilaient leurs eaux lentes dans le tracé desquelles, plus lentement encore, s'écrivait leur destin. Ils ne connaissaient des villes que leurs noms, leurs légendes, leurs marchés et leurs fêtes, racontés par l'écho qu'en donnaient ceux d'Ather qu'ils croisaient aux escales. Ils en connaissaient les silhouettes, gravures fantastiques esquissées sur fond de ciel et de lumière en perpétuelle métamorphose, rehaussées sur champs de lin, de blé, de jacinthe, de paille et de houblon. Villes minières, villes drapantes, villes artisanes et commerçantes, dressant à cru leurs tours et leurs beffrois dans le vent monté depuis la mer là-bas et s'attestant cité d'hommes graves et laborieux à la face de l'histoire et de Dieu. Et de même étaient dressés leurs cœurs, accrus dans l'immensité du présent. Il ne connaissait des hommes que ceux rencontrés dans les biefs, aux écluses et aux gares d'eau, n'échangeant avec eux que des vocables simples, équarris par l'usage et la nécessité. Des mots forgés à la mesure de l'eau, des péniches, du charbon, du vent et de leur vie. Il ne connaissait des hommes que ce qu'ils connaissaient d'eux-mêmes, les âpres pans portés au jour du visage et du corps bâtis en contre-champs d'ombrés impénétrables. Entre eux, ils parlaient moins encore, et à eux-mêmes pas du tout, tant leurs paroles toujours retentissaient de l'écho dissonant d'un trop profond silence. Mais mieux que quiconque, ils avaient connaissance des luminosités et des pénombres du ciel, des humeurs du vent et du grain de la pluie, des odeurs de la terre et du rythme des astres. Entre gens de l'eau douce, ils s'appelaient plus volontiers du nom de leur bateau que de leur propre nom. Il y avait ceux de la Justine, du Saint-Éloi, du Liberté, du Bel Amour, de l'Angélus, de l'Hirondelle, de la Marie-Rose, du Cœur de Flandre, du Bonne Nouvelle ou du Fleur de Mai. Les Péniels étaient ceux d'à la grâce de Dieu. Vitali Péniel avait mis au monde 7 enfants, mais le monde n'en élut qu'un seul, le dernier. Tous les autres étaient morts le jour même de leur naissance, sans même prendre le temps de proférer un cri. Le 7e, lui, cria dès avant sa naissance. Dans la nuit qui précéda l'accouchement, Vitali ressentit une vive douleur qu'elle n'avait jusqu'alors jamais connue, et un cri formidable résonna dans son ventre. Un cri semblable à celui des bateaux dans la brume s'en revenant de pêche en haute mer. Elle connaissait ce cri pour l'avoir entendu si souvent autrefois lorsque, pressée contre sa mère, elle veillait sur la plage le retour du Rose du Nord et de l'Agneau de Dieu à bord desquels le père et les frères étaient allés pêcher. Oui, elle connaissait bien ce cri monté des brumes pour l'avoir attendu si longtemps par deux fois et ne l'avoir retrouvé au-delà de toute attente qu'en écho fantastique dans le corps fou de sa mère. Mais elle avait quitté le monde de ses eaux trop violentes pour suivre un homme des eaux douces, et elle avait chassé ses cris de sa mémoire. Voilà cependant qu'un nouvel écho venait de lui ressurgir du tréfonds du corps et de l'oubli, un grand cri de mère en vives eaux, et elle sut que son enfant cette fois-ci vivrait. « Écoute, » dit-elle à son mari endormi contre son flanc, « l'enfant vient de crier. Il va naître et veut vivre. » « Tais-toi donc, malheureuse, » répondit l'homme en se retournant vers le mur. « Ton ventre n'est qu'un tombeau qui ne peut rien engendrer. » Au petit jour, tandis que son mari s'était déjà levé pour aller s'occuper des chevaux, Vitali enfanta au fond de la cabine, toute seule, adossée contre les oreillers. C'était un fils. Il cria plus fort que la veille en traversant le corps de sa mère et son cri affola les chevaux serrés les uns contre les autres sur la berge encore ombrée de nuit. Le père, en entendant ce cri, s'affaissa sur ses genoux et se mit à pleurer. Par 7 fois l'enfant cria et par 7 fois les chevaux se cabrèrent, dressant leurs cous au ciel en balançant leur tête. Le père pleurait toujours et par 7 fois il sentit son cœur s'arrêter. Lorsqu'il se releva et retourna dans la cabine, il vit dans la pénombre luire le corps de sa femme d'un blanc éclat crayeux et, posé entre ses genoux, l'enfant encore tout ruisselant d'eau et de sang. Il s'approcha du lit et caressa le visage de Vitali, bouleversé de fatigue, de douleur et de joie. Ce visage, à peine le reconnut-il. Il semblait s'être détaché de lui-même, soulevé sous un assaut de lumière monté depuis les tréfonds de son corps et transfondu en un sourire plus vague et blanchoyant qu'un clair de demi-lune. Puis il prit son fils dans ses bras, le petit corps nu pesait un poids immense, le poids du monde et de la grâce. Mais il ne trouva aucun mot, ni pour la mère, ni pour l'enfant. Comme si les larmes qu'il venait de verser l'avaient lavé de tout langage. Et de ce jour, il ne retrouva plus jamais la parole. Vitalis signa, puis dessina ce même signe sur tout le corps du nouveau-né pour écarter le malheur du moindre pan de peau de son fils. Elle se souvenait de la cérémonie du baptême des bateaux, au cours de laquelle le prêtre, revêtu du surplis blanc et de l'étole dorée, aspergeait le bateau neuf d'eau bénite jusque dans ses moindres recoins, afin que la mort ne puisse trouver aucune prise lorsque la mer se soulèverait contre lui. Mais tandis qu'elle ressongeait à ces fêtes célébrées sur la grève de son visage natal, elle glissa doucement dans sa mémoire endormeuse et sa main retomba avant d'avoir achevé de tracer un dernier signe sur le front de l'enfant. Ainsi, le dernier-né des Peignel prit-il sa part de vie, en échange de quoi il reçut le nom de Théodore Faustin. L'enfant semblait d'ailleurs avoir pris plus que sa part, comme s'il rassemblait en lui toute la force volée à ses frères, et il poussa avec la vigueur d'un jeune arbre. D'emblée, il devint batelier ainsi que l'avaient été tous ses aïeux paternels, passant ses jours sur la péniche et sur les berges, entre le sourire lumineux de sa mère et le silence inexpugnable de son père. Ce silence était empreint d'un si grand calme et d'une telle douceur qu'à ses côtés l'enfant apprit à parler comme on apprend à chanter. Sa voix se modula sur fond de ce silence, prenant un timbre grave et léger à la fois, et des inflexions pareilles aux ondoiements de l'eau. Sa voix semblait toujours être sur le point de se taire, de se perdre dans le murmure de son propre souffle, et elle avait d'étranges résonances. Lorsqu'il finissait de parler, les derniers mots qu'il venait de prononcer égrenaient pendant quelques instants encore un imperceptible écho qui, par cette fois, troublait vaguement le silence. Il aimait jouer à l'avant du bateau, assis face à l'eau dont il connaissait les lueurs et les ombres mieux que toute autre chose. Il fabriquait des oiseaux en papier qu'il coloriait de teintes vives, puis les lançait dans l'air où ils tournoyaient un instant avant de retomber sur l'eau où leurs ailes s'effondraient et perdaient leur couleur en minces saignées roses, bleues, vertes et orangées. Il taillait aussi de petites péniches dans des écorces et des branches ramassées sur les berges, y plantait un grand mât où il nouait un mouchoir, et larguait ensuite ses bateaux au fil de l'eau, chargeant leurs cales vides du poids de tous ses rêves.
Thank you.
À voix haute, Meredith Ledez.
Vitali n'attendit plus jamais d'autre enfant. Chaque nuit, son mari l'enserrait contre lui et s'unissait à elle, ébloui par la blancheur de son corps, devenu tout entier sourire et abandon. Il s'endormait en elle d'un sommeil profond comme l'oubli, absous de rêves et de pensées. Et l'aube toujours le surprenait comme une nouvelle remise au monde de son corps confondu à celui de sa femme, dont les seins, depuis la naissance de leur fils, ne cessaient de porter un lait au goût de coing et de vanille. Et de ce lait, il s'abreuvait. Le père demeurait à la barre et Théodore Faustin s'occupait des chevaux. Il y avait Robe de Suif, la grande jument noire qui balançait toujours la tête en marchant, et deux chevaux couleur de rouille surnommés Reuse le Borgne et Reuse Glouton. Bien avant le lever du jour, Théodore Faustin s'en venait les nourrir, puis jusqu'au soir, il les accompagnait le long du chemin de halage. Lors des arrêts aux écluses ou aux gares de chargement, il s'aventurait un peu parmi les gens d'Atterre, les éclusiers, les cafetiers et commerçants, mais ne se mêlait jamais à eux, retenu toujours par une obscure crainte à l'égard de tous les êtres. Il n'osait pas leur parler, tant les intonations étranges de sa voix étonnaient ceux qui l'entendaient, et qui alors, pour se défendre du trouble ressenti confusément à son écoute, se moquaient de lui. Durant les heures de pause, il demeurait auprès de ses bêtes, dont il aimait caresser les têtes lourdes et les yeux aux paupières soyeuses. Les globes énormes de leurs yeux, car rien n'effarouchait, portaient sur lui un regard infiniment plus doux que celui de son père et le sourire de sa mère. Leurs yeux avaient la matité du métal et du verre dépoli, à la fois translucides et dénués de transparence. Son propre regard pouvait plonger et pénétrer très loin en eux, mais n'y pouvait rien distinguer. Il se perdait dans les dépôts de lumière ensablée, d'eau limoneuse et de vent enfumé qui s'y étaient amoncelés en vases brunes mordorées. Pour lui résidait là la face cachée du monde, la part de mystère de la vie confluant dans la mort et le séjour de Dieu, un havre de beauté, de calme et de bonheur. Son père mourut à la barre du nouveau chaland qu'il avait acheté quelques mois plus tôt. C'était là le premier bateau dont il était propriétaire et non plus affréteur. Et c'était lui-même qui avait choisi le nom inscrit en larges lettres à la proue de la péniche, à la grâce de Dieu. La mort entra d'un coup dans son cœur, sans s'annoncer, sans faire de bruit. Elle se glissa en lui si discrètement qu'il ne sursauta même pas. Il demeura debout, bien droit face à l'escaut, les mains au gouvernail, les yeux grands ouverts. Théodore Faustin, qui menait les chevaux à côté sur la berge, ne s'aperçut de rien. Il y eut bien pourtant ce mouvement étrange des trois bêtes qui ensemble s'arrêtèrent un instant et tournèrent la tête vers leur maître. Mais Théodore Faustin, regardant à son tour dans la direction qu'elle désignait, ne vit rien d'anormal. Son père se dressait comme à l'accoutumée, attentif à la barre. Ce fut Vitali qui s'en aperçut. Elle se tenait à ce moment-là à l'arrière du bateau, occupée à tordre du linge mis à tremper dans une grande bassine. Ce fut son corps qui entra en alarme. Un froid intense la saisit brutalement et pénétra sa chair jusqu'à ses os. Ses seins se pétrifièrent. Elle se releva et courut précipitamment vers l'avant, se heurtant comme une aveugle à tout ce qui traînait sur son passage. Ses seins lui faisaient mal, le souffle lui manquait et elle ne put crier le nom de son mari. Elle arriva enfin à lui, mais son élan fut arrêté net dès qu'elle posa une main sur son épaule. Comme en un éclair, elle venait de voir fulgurer au contact de sa main le corps de l'homme immobile en éblouissante transparence. Et au travers de ce corps, pareil à une haute vitre, elle aperçut son fils, là-bas, plus avant sur le chemin du halage, conduisant les chevaux d'un pas lent, monotone. Puis l'obscurité se fit et le corps de l'homme se plomba de ténèbres. Alors il s'effondra dans un bruissement sourd et en tombant s'échoua dans les bras de Vitali. Le poids de ce corps lui parut lourd du poids amoncelé de toutes les nuits au cours desquelles il s'était couché sur elle pour l'étreindre et se nouer de tous ses membres à elle. Le poids de toute une vie, de tant de désirs, de tout un amour, qui se trouvait soudain précipité en une masse inerte et froide. Elle fut emportée dans sa chute et s'écroula sous lui. Elle voulait alerter son fils, mais les larmes déjà l'empêchaient d'appeler. Des larmes blanches, au goût de coing et de vanille. Lorsque Théodore Faustin accourut sur la péniche, il trouva les deux corps de ses parents entrelacés sur le pont comme en une lutte silencieuse et farouche, et entièrement baignés de lait. Il sépara ces deux corps effrayants de lourdeur, puis les étendit côte à côte. « Mère, dit-il enfin, il faut te relever. Ne reste pas ainsi couché, pareil au père. » Vitalie obéit à la voix de son fils et le laissa emporter le corps dans la cabine où il l'allongea sur le lit. Elle regagna enfin la cabine à son tour et s'y enferma seule un moment pour accomplir la toilette du défunt. Ce fut dans le lait de ses larmes qu'elle le lava, puis elle l'habilla, lui croisa les mains sur la poitrine, alluma 4 chandelles autour du lit et rappela son fils. Sitôt entré dans la pièce dont la mère avait voilé la fenêtre, Théodore Faustin fut saisi par l'odeur presque écœurante de douceur qui régnait dans la pénombre. Il s'exhalait dans l'atmosphère renfermée de forts relents de coing sûr et de vanille. Cette odeur troubla profondément Théodore Faustin, qui en éprouvait le goût jusque dans sa propre chair et au-dedans de sa bouche. Et ce goût à la fois inconnu et si violemment familier l'effrayait autant qu'il le ravissait, remuant en lui des élans de désirs obscurs. Il voulut appeler sa mère, mais son appel s'étouffa dans le flux de salive laiteuse qui d'un coup lui emplit la bouche. Vitalie se tenait assise auprès du lit, parfaitement droite sur sa chaise, les mains posées à plat sur ses genoux serrés. Sa poitrine ne bougeait pas, bien que son souffle fît entendre d'étranges chuintements rauques et saccadés. Son visage, dans la lumière dansante des bougies, n'émergeait de l'obscurité que par à-coups et par pans inégalement éclairés. Ce visage en fragments semblait être moins fait de chair et de papier que résultait d'un jeu mouvant de papiers découpés et recollés en tous sens. Et il évoqua soudain à Théodore Faustin les oiseaux de papier qu'il fabriquait lorsqu'il était enfant pour les lancer ensuite sur l'eau. Mais cet oiseau profil n'avait ni envol, ni chute et aucune couleur. Il reposait très immobile à la limite de l'absence. Il s'approcha enfin du lit et se pencha vers son père pour l'embrasser au front, mais en s'inclinant, il fut mis en arrêt par les yeux du gisant demeurés entrouverts. Plus que jamais, le regard de son père ressemblait à celui des chevaux. L'éclat des flammes s'enfonçait profondément dans le brun ambré des iris, mais ne s'y réverbérait pas, il s'y faisait lumière. Lumière fossile, eau stratifiée, vent cendreux, immobile. Et la perspective que laissait ainsi entrevoir ce mince ray de regard s'élançait à l'infini dans l'invisible et le mystère. Était-ce donc là que résidait le séjour de Dieu, dans ces affres de douceur, de silence et d'absence ? Théodore Faustin baisa le visage de son père par 3 fois, sur les paupières et sur les lèvres, et l'embrassa par 4 fois sur les épaules et sur les mains. Puis il vint s'agenouiller auprès de sa mère, et, posant son front contre ses genoux, il se mit à pleurer doucement dans les plis de sa jupe. À partir de ce jour, Théodore Faustin reprit la place du père à la barre de la péniche, et Vitalie remplaça son fils à la conduite des chevaux. Mais lui seul continuait à les nourrir et les soigner, et dans leur regard toujours, il cherchait le reflet du regard de son père. Il avait juste 15 ans, et déjà lui était échue la charge de mettre à bord à la grâce de Dieu, lourd chaland aux cales pleines de charbon, glissant imperturbablement tout au long de l'Escaut. Mais ce bateau était plus que sien. Il demeurait celui du père. Il était même le corps second du père. immense corps posthume aux flancs emplis de noires concrétions arrachées aux antres de la terre, comme autant de résidus de songes millénaires. Et ces blocs de songes, il les livrait au feu des gens d'Ather, ces étrangers reclus là-bas, dans leur maison de pierre. Il ne pouvait encore être le maître, il n'était qu'un passeur veillant sur le halage incessant d'un corps devenu fantastique, à ras de l'eau, à fleurs de ciel, à cœur de terre, à la grâce terrifiante de Dieu. C'était le Livre des Nuits, le premier roman de Sylvie Germain paru en 1985 aux éditions Gallimard et toujours disponible en poche. Cette émission était réalisée, comme toujours, par Frédéric Guyon. Vous avez pu entendre en interlude musical un extrait des Kinder Totenlieder, interprété par Kathleen Ferrier et l'Orchestre Philharmonique de Vienne, sous la direction de Bruno Walter. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain dimanche pour une nouvelle lecture à voix haute.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.